Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé, le plateau du débat politique d'aujourd'hui de Radio Ndeke Luka fait place aux jeunes acteurs de la scène politique, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques, de l'opposition et de la majorité. La problématique de manipulation les concerne tous. Depuis plus de 3 décennies, la jeunesse centrafricaine est considérée comme une proie politique et elle est souvent au premier plan des causes de l'insécurité, de déstabilisation des régimes, du vandalisme et j'en passe, de la chute de l'empereur Jean-Bédel Bokassa au président Félix Patassé et à François Bozizé Nguvonda. Les jeunes sont à la fois bourreaux et victimes et pourtant cette jeunesse est considérée comme le maillon fort du développement socio-économique du pays, mais elle est confrontée à des défis majeurs, entre autres l'analphabétisme, le taux élevé du chômage, le non-accès aux soins de santé de qualité, etc. Alors que certaines données statistiques estiment que la jeunesse centrafricaine constitue près de 80% de la population. Question, quelle est la place qu'occupent les jeunes dans la sphère politique centrafricaine? Que dire des agitations des jeunes utilisées par certains hommes politiques pour leurs intérêts? Quelle place occupe la jeunesse dans la politique du président de la République, Faustin Kantouadira? Voilà l'ossature du débat politique de cette semaine. Et pour en parler, je reçois Madame Kessy Ekomo, directrice pays de l'ONG Ourou et membre de la société civile. Madame Ekomo, bonjour et bienvenue pour la première fois dans cette émission politique de Radio Ndeke Luka.
Bonjour.
Monsieur Daniel Zewé, bonjour.
Bonjour.
Chargé de mission au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique. Et Paul Cressant Beninga, bonjour. Vous êtes porte-parole du groupe de travail de la société civile GTC. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando.
Armando Nguindi, c'est moi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Le débat politique du premier média centrafricain. Première question à tous autour de cette table. Si on parle aujourd'hui de la jeunesse centrafricaine, quelle est la première idée qui vous vient en tête, monsieur Daniel Zewé?
Écoutez, comme vous avez su le dire, la jeunesse centrafricaine constitue une frange non considérable de la population centrafricaine. Ça fait approximativement 80%. Les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 18 à 35 ans, conformément à la charte africaine, de la jeunesse. Donc, pour moi, je pense que la jeunesse centrafricaine occupe une place prépondérante, n'est-ce pas, pour le développement de ce pays. Et la jeunesse centrafricaine est en train de faire ses preuves. Je pense qu'on aura le temps de rentrer dans les détails.
Oui, on n'a pas assez de temps. Si vous avez d'autres détails supplémentaires pour vous compléter, pour qu'on puisse évoluer.
D'autres détails supplémentaires, je pense qu'en même temps, la jeunesse, elle est victime. La jeunesse est bourreau, mais en même temps, la jeunesse est la solution. Nous avons toujours tendance d'oublier ce dernier aspect, c'est-à-dire la solution éventuellement à toutes les crises que nous avons connues. Cette jeunesse est utilisée pour les crises, cette jeunesse elle est victime et en même temps, cette jeunesse est la solution. Cette jeunesse est la solution juste pour le simple fait que constituant plus de 80% de la population, si on essaie de la mettre au cœur de toutes les décisions et si on essaie de l'occuper comme il se doit, le problème sera résolu de lui-même.
Madame, je voulais faire un peu de différence entre Madame Ekomo, Lina et vous en tant que telle, hein. Sinon les gens vont confondre.
Mademoiselle.
Non, pas mademoiselle, mais Madame Kessy Ekomo, comme ça. Voilà, sur cette première question, qu'en dites-vous?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse centrafricaine qui essaye, en tout cas, de se démarquer. Et on voit une jeunesse qui est beaucoup plus active, au fait, au niveau communautaire. On voit une jeunesse qui est beaucoup plus active au niveau national, qui essaie de pouvoir trouver sa place et vraiment poser, au fait, contribuer de manière effective, au fait, aux dynamiques liées à la paix et au développement dans le pays. Cependant, on voit aussi qu'on a une large part de cette jeunesse-là qui reste encore, en fait, en attente, dans une certaine mesure. On voit cette jeunesse-là qui essaye de voir dans quelle mesure pouvoir contribuer aussi. Et pour c'est là où on retrouve, en fait, la dynamique, au fait, des organisations de jeunes qui sont en train de pousser et d'accompagner leurs pères pour pouvoir, en fait, les transformer et leur permettre de pouvoir jouer le rôle qu'ils ont à jouer.
Et sur le plan politique?
Et sur le plan politique, on voit... Vous savez, en République centrafricaine, on n'a jamais autant vu de jeunes occupés de postes au niveau des ministères que dernièrement. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais il n'en reste pas moins que ça n'a pas vraiment changé, au fait, la place et la voix de la jeunesse, au fait, dans la prise de, dans les prises d'opposition ou dans les contributions effectives. C'est bien d'être dans les bâtiments, c'est bien d'avoir, d'avoir les titres, mais c'est autre chose aussi de pouvoir, au fait, contribuer de manière effective et d'être reconnu, du moins valoriser, au fait, la contribution, au fait, de ces jeunes-là. Donc, on a une dynamique qui se veut positive et plus ou moins, comment dire, nouvelle, au fait, pour cette jeunesse-là, mais il n'en reste pas moins qu'au fait, on a encore aujourd'hui, au fait, un vide, au fait, dans la prise en compte effective, au fait, de la contribution de ces jeunes-là.
Monsieur Procrastin Binigia.
Écoutez, pour répondre à votre question, Armando, qui est celle de savoir si on parle des jeunes, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit, je dirais simplement que les jeunes constituent une catégorie sociale parmi tant d'autres au sein d'une société. Et tout à l'heure, Daniel rappelle à dessein que les jeunes constituent près de 80%, ce qui est vrai. Lorsque vous lisez la préface de la politique nationale de promotion de la jeunesse rédigée par le président de la République, il rappelle à dessein que les jeunes représentent près de 46%. Pourquoi ? Simplement parce que quand on parle de jeunes, on a tendance à mélanger avec les enfants. C'est les gens de 0 à 35 ans révolus qui représentent 80% de la population. Maintenant, lorsqu'on s'en tient aux différentes définitions données au plan juridique par le législateur centrafricain et ainsi que au plan régional et international, vous verrez que pour la résolution 2250 des Nations Unies de 2015, est jeune, c'est lui qui a entre 18 et 29 ans révolus. La charte africaine de la jeunesse, est jeune, c'est lui qui a entre 18 et 35 ans révolus. Et cette définition a été reprise par le législateur et le politique centrafricain, notamment ce dernier, qui dans la politique nationale de promotion de la jeunesse estime que le jeune, c'est celui qui a entre 18 et 35 ans révolus. Et selon les dernières statistiques, ceux qui ont entre 18 et 35 ans révolus représentent près de 50% de la population. Et si on associe à ceux-là, ceux qui ont entre 0 et 18 ans, nous allons atteindre les 80%, sinon 70% pour être plus exact. Alors, maintenant, lorsqu'on parle des jeunes, qui ici a brossé un peu la situation, ainsi que Daniel, je pense que il faut s'inscrire dans une perspective à la fois structurelle et conjoncturelle pour pouvoir analyser la situation de la jeunesse centrafricaine. Au plan structurel, qu'est-ce qu'on peut retenir des jeunes ? Qu'est-ce que le politique, je ne parle pas du gouvernement, je parle du politique, je parle de l'ensemble de l'élite politique dirigeante pendant près de 3 décennies, si je m'en tiens à votre propos introductif, qu'est-ce que le politique a fait pour faire de la jeunesse un levier de développement ? Et on verra effectivement qu'il y a des aspects qui me paraissent extrêmement importants. Le premier, c'est l'éducation. Le deuxième, quand je parle de l'éducation, je parle de la formation, je parle du point de vue système éducatif, mais aussi je parle de l'éducation civique. Je parle également d'une autre valeur, c'est le patriotisme. Et je parle également de la question de la participation politique. Qu'est-ce que le politique a fait depuis ce temps-là, depuis les 3 décennies-là? Ça, c'est extrêmement important au plan structurel. Au plan conjoncturel aujourd'hui, qu'est-ce que représente le jeune pour le politique centrafricain? Et là, je ne parle pas que de l'élite politique dirigeante, mais je parle de l'élite politique dans son ensemble, c'est-à-dire l'élite politique dirigeante, les forces politiques de l'opposition, les leaders d'opinion, les représentants, les responsables des organisations de la société civile, les institutions étatiques, les institutions non étatiques. Qu'est-ce que l'ensemble de ces acteurs-là fait pour la jeunesse centrafricaine? Et pour moi, c'est de cette manière-là que je peux analyser la situation.
Mais vous pouvez continuer. Hein. Je vous donne une seconde chance sur la définition.
Non, quelques minutes supplémentaires. Pas une seconde chance. Je n'ai pas échoué. Quelques minutes supplémentaires.
Je ne sais pas si peut-être vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez continuer. Oui, alors, mais juste là, pourquoi aujourd'hui on parle de la jeunesse manipulée?
Oui, j'en viens. Je parle. Pourquoi est-ce qu'on parle de la jeunesse manipulée? Pour moi, ce n'est pas le fait que la jeunesse soit manipulée qui me paraît important, mais c'est le fait que la jeunesse accepte d'être manipulée. Parce que nous sommes dans une arène qui est politique. Lorsqu'elle est dans une arène politique, ça va de soi qu'un acteur politique a des objectifs à atteindre. À partir de ce moment-là, il peut se passer de certains moyens légaux et mobiliser un certain nombre de moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Au plan éthique, c'est condamnable. Au plan moral, c'est condamnable. Au plan humain, ça se comprend, ça s'explique, même si ça ne se justifie pas. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque le politique mobilise la jeunesse, manipule la jeunesse, pourquoi est-ce qu'il arrive à ses fins? simplement parce que, au plan structurel, les politiques qui ont été mises en place, je parle des politiques publiques, qui ont été mises en place pour pouvoir rendre ce jeune-là non manipulable, n'ont pas été faites ou n'ont pas été implémentées.
C'est ce que vous avez évoqué sur le simple. Plan éducatif.
Oui, j'en viens. Oui. Regardez le système éducatif centrafricain. Le système éducatif centrafricain des années 90 diffère du système éducatif centrafricain d'aujourd'hui. Vous le savez, je me souviens du temps où j'étais encore très jeune. Le cadet de mon père, mon oncle partenaire, j'ai retrouvé une copie de sa lettre qu'il adressait à mon père, son aîné. Mon père était aux classes de CM2 et lui, il était aux classes de CE2. Je vous assure, cette lettre-là, aujourd'hui, très peu d'étudiants ou très peu d'élèves en classe de terminale ou d'étudiants en classe de première ou deuxième année sont capables de rédiger une lettre. Ça témoigne de ce que le système éducatif centrafricain a pris un coup par le fait des instabilités sociopolitiques auxquelles le pays est confronté. Vous savez par exemple aujourd'hui que dans certaines localités de la République centrafricaine, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que certaines écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Vous prenez des zones dans les zones comme Bamiyini, Bangoura et autres. Depuis 2012, avec la rébellion Séléka, il y a des écoles qui n'existent que de nom.
Mais il y a aussi des exceptions. Il y a certains jeunes sur le plan ici.
J'en viens, et Kissi en a parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a des exceptions. Mais ce sont des exceptions en droit qui confirment la règle. Ça témoigne de ce qu'effectivement, il y a une grande partie effectivement qui pose problème. Donc le système éducatif en soi n'est pas bon. Je vous donne un autre cas. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, la société se comporte vis-à-vis de la jeunesse. On fait comprendre à la jeunesse, par exemple, que la violence est l'un des moyens permettant d'avoir accès à l'arène politique. Ce qui fait en sorte que les jeunes pensent que c'est par le mécanisme de la violence, qu'elle soit armée, qu'elle soit physique ou non armée, que sais-je, c'est par ce mécanisme-là qu'on pourrait facilement avoir accès à l'arène politique, et c'est dommage.
Oui, Kessie, vous voulez répondre rapidement, et surtout la manipulation de la jeunesse par la politique.
Effectivement, c'est effectivement le point que j'aimerais souligner. Quand on parle de manipulation, il faut redéfinir ce que c'est que la manipulation. La manipulation passe par quoi ? L'influence. Déjà, ça passe aussi par les sentiments et ça passe aussi par la coercition. L'influence, on entend par là, au fait, on voit énormément de jeunes qui suivent certaines dynamiques aujourd'hui, mais qui sont basées au fait sur l'autorité qu'ils ont en face d'eux. En République centrafricaine, les jeunes...
Et qui dépendent d'eux.
Qui
dépendent de cette autorité.
Exactement. Au fait, il faut revenir à notre culture aussi. C'est que les jeunes sont très respectueux au fait de l'autorité en République centrafricaine dans une certaine mesure. Et en face d'eux, si c'est une autorité qui leur parle et qui leur dit que les choses doivent être comme ça, généralement, ils ont tendance à suivre. Ça, c'est une première chose. Au niveau maintenant des sentiments, c'est qu'on a une jeunesse, et comme Cresson l'a souligné, c'est une jeunesse au fait qui a vécu énormément de choses, des années blanches, énormément au fait de choses qui ne leur ont
de
pas permis,
de l'insécurité
et autres, mais qui ne leur ont pas permis de pouvoir en fait développer aussi un esprit critique et d'analyse au fait des choses. Donc ce qui fait qu'en face de, si une autorité vient, même si c'est un mensonge, vient leur dire un mensonge, ils n'ont pas, la majorité en tout cas, n'a pas la capacité de pouvoir analyser le contenu au fait de ce qui est donné. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est au niveau de l'influence, au niveau de la coercition. De plus en plus, on voit aussi, il y a une dynamique de groupe qui se passe. C'est que, quand on, dans les communautés, on se rend compte, surtout au niveau de Ourou, avec les jeunes avec lesquels on travaille, on voit que certains jeunes nous disent, non mais j'ai suivi le mouvement. C'est aussi un mouvement de suivisme, et qui vient aussi par une force de coercition. Si tu ne nous suis pas, ça veut dire que tu es contre nous.
Et tu seras sanctionné.
Exactement. Et donc, au fait, ces jeunes aussi sont dans un mouvement de suivisme. Donc, on parle de manipulation. Il faut voir comment, au fait, ces jeunes-là sont accompagnés, au fait, sont subissent, au fait, cette manipulation-là.
Mais
et
à la base, c'est fondamental. C'est une question d'éducation.
Je pense que c'est une question d'éducation, c'est vrai.
Pour que ça en a mentionné.
Effectivement, c'est une question d'éducation, c'est vrai. L'éducation nous permet... Attention, l'éducation nous permet dans une certaine mesure, l'éducation, on va dire, au niveau de l'école, par exemple, nous permet de pouvoir avoir cet esprit analytique des choses. Mais il y a l'éducation aussi à la maison. Attention. Il y a une chose que, dernièrement, j'ai remarqué, par exemple. Avec Ourou, on a lancé une exposition sur les ethnies et, au fait, les manipulations, comment les ethnies sont manipulées à des fins politiques. Et les jeunes nous ont souligné un point, c'est que ça se passe à la maison aussi. Attention. Ça se passe à la maison, cette manipulation-là aussi. Pas une manipulation, mais une forme d'influence. Mmh. Où, au fait, on nous dit que, on dit à ces jeunes, par exemple, Sungbakala, va acheter ce truc-là chez Sungbakala. Vous voyez ? En gros, ça met dans la tête de ces jeunes-là, au fait, qu'il y a nous et à eux. Et au fait, ça nourrit aussi leur engouement, enfin leur dynamique au niveau politique dans une certaine mesure. Ça nourrit leur manière de percevoir la politique, leur manière de percevoir leur engagement en tant que citoyen.
Monsieur Zewé, sur la question de manipulation de la jeunesse.
Vous savez, la manipulation telle qu'a eu à le dire Kessy et mon prédécesseur Cressant, la manipulation, elle est multiforme. La manipulation commence d'abord par ce qu'on appelle l'éducation de base. Et après, nous avons ce qu'on appelle la formation. Et après, nous avons en face ce qu'on appelle l'environnement. En ce qui concerne l'éducation de base, je pense que Kessy a su développer cela proprement. Lorsque nous sommes dans un foyer ou lorsque nous sommes dans une région et qu'on nous fasse comprendre tout simplement que X était au pouvoir, il est de telle ethnie et nous avons été martyrisés, ça dégage ce qu'on appelle une influence collective et ça permet éventuellement d'avoir ce qu'on appelle un ressentiment négatif pour une catégorie, c'est-à-dire pour une ethnie. C'est la première chose. Vous allez comprendre tout simplement que lorsque vous êtes dans la partie nord de la République centrafricaine, on vous dira que non, X était au pouvoir et à un moment donné, nous avons été martyrisés, nous avons été marginalisés, etc. Vous allez comprendre que lorsque Y est au pouvoir, on dira tout simplement que X ou Y n'est pas de notre ethnie. Par conséquent, on ne peut pas prétendre à quelque chose de bien. À partir de ce moment, ça dégage ce qu'on appelle un ressentiment négatif dans la pensée du jeune, dans son foyer d'adoption ou dans son foyer de base. Et lorsque une situation se présente, à partir de ce moment, ce jeune-là se sent déjà concerné et se pose déjà la question de savoir « est-ce que je suis de tel camp ou je suis de l'autre camp ?» À partir de ce moment, il y a une influence culturelle qui se passe. Je suis du Nord, je suis de l'Est ou je suis de l'Ouest. Ça d'abord, c'est quelque chose qu'il faut bannir de la pensée collective. Emmener les enfants à comprendre tout simplement que nous faisons partie d'une patrie et que nous sommes un et indivisibles.
Et ça, c'est pour les petits enfants, oui. Mais ceux qui sont déjà adultes, qui ont eu des diplômes, qui sont mûrs, qui maîtrisent, qui savent faire la distinction entre le bien et le mal, qui se lancent dans cette pratique.
J'en viens. Alors, au fur et à mesure qu'on évolue, l'enfant quitte la phase de l'enfance, rentre dans la phase de la jeunesse et à partir de ce moment, l'enfant dégage des besoins. Lorsque l'enfant a des besoins, en face de cet enfant, il peut y avoir ce qu'on appelle celui qui a la possibilité de répondre aux besoins de celui-là, de ce dernier. Et c'est très facile. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle des recrutements, c'est des besoins. Lorsqu'il y a des recrutements, c'est des influences. Celui qui vient en face vient tout simplement pour vous présenter, vous miroiter un avenir meilleur. À partir de ce moment, vous vous projetez dans l'avenir et vous vous dites « bon, si je suis X ou si je suis Y, ça me permet d'avoir ce qu'on appelle un avenir meilleur. » C'est des marchands de rêves qui sont en présence. À partir de ce moment, lorsque vous êtes preneur, automatiquement, vous abandonnez votre conception de base, votre éducation, votre connaissance livrex, quelle que soit l'analyse que vous faites de la situation, quoique sachant que c'est mauvais, mais vous êtes obligé de porter votre adhésion juste pour assouvir un certain nombre de besoins, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir et de se dire tout simplement que nous allons prétendre à ce qui est bien, c'est-à-dire je vais avoir un avenir meilleur. Mais la réalité nous rattrape le plus souvent. Et pourtant, nous avons subi la manipulation d'ordre matériel. Il y a aussi un autre aspect. Et cet aspect, c'est le plus important. Lorsque on utilise les espèces sonnantes et trébuchantes pour arriver à nos fins, c'est-à-dire nous, politiques, en manipulant la jeunesse, à partir de ce moment, ça devient dangereux. C'est pour ça que la catégorie en tant que telle diffère. À partir du moment où nous avons ce qu'on appelle la formation de base, c'est-à-dire l'éducation au foyer, on remonte vers ce qu'on appelle l'éducation d'ordre livresque et on remonte vers ce qu'on appelle une influence d'ordre matériel. Donc c'est progressif.
Monsieur Paul Cressant Beniga, je vous vois remuer la tête tout à l'heure, vous voulez répondre.
Je voudrais revenir sur ce que Kessy a dit pour apporter une clarification dans mes propos. Lorsque je parle de l'éducation, bien évidemment, je parle de l'éducation au plan de l'éducation, de la scolarisation, je parle de l'éducation au plan de l'éducation civique, je parle de l'éducation au plan de la socialisation, qui est un processus d'intériorisation et d'extériorisation des valeurs. Et ça commence au sein de la famille. Je suis entièrement d'avis. Mais lorsque Kessy a dit, par exemple, il y a, en un mot, elle parle du suivisme, ce que j'appelle généralement l'effet de masse. Et pour moi, lorsque on est outillé au plan éducatif, on peut briser cet effet de masse, refuser effectivement de suivre le mouvement. Ce n'est pas parce que si vous avez la tête sur les épaules, si je puis m'exprimer de la sorte, et que les collègues viennent vous dire, bah, écoutez, il y a un mouvement là-bas, allons soutenir tel. Si vous pouvez faire le discernement, vous allez dire non, ça ne m'intéresse pas, l'effet de masse. Il y a par exemple la dimension coercitive, je suis entièrement d'avis. On est dans ce qu'on appelle la violence symbolique. On est dans la violence symbolique et lorsqu'on est dans la violence symbolique, il faut avoir une capacité de se rendre compte que là, on est en face de la violence symbolique. Je vais vous donner des exemples simples par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne les jeunes. Regardez les institutions qui manipulent les jeunes et je vais choquer et je le fais à dessein. Il n'y a pas que l'élite politique dirigeante, il n'y a pas que les leaders politiques ou les leaders d'opinion qui manipulent les jeunes. Mais il y a une sorte de laisser-aller qui fait en sorte qu'il y a des institutions qui participent de cette manipulation-là.
Vous voulez parler de la justice?
J'arrive. Je vous donne un exemple, ce n'est pas la justice. Prenons par exemple certains mouvements dits des nouveaux membres, de certains mouvements dits des nouveaux mouvements religieux. Regardez la manière par laquelle... La parole de Dieu est prêchée, la manière par laquelle les responsables de ces mouvements-là prêchent. Regardez le discours qui est tenu. Je vous donne des exemples simples. Lorsque vous organisez du lundi à lundi des cellules de prière, je ne suis pas contre, des cellules de prière de 8h à 18h, quand est-ce que le jeune qui participe à ces cellules de prière-là aura l'occasion de se former? C'est extrêmement difficile. Regardez ce qui se passe maintenant au plan national. Prenez ne serait-ce que le rond-point des martyrs. Vous allez au pont des castors. Regardez certaines institutions ou certaines organisations qu'on laisse prospérer. Les débits de boissons, ça, vous pouvez en avoir jusqu'à 100. Du rond-point des martyrs jusqu'au niveau de pont des castors, les débits de boissons, vous pouvez en avoir jusqu'à 100. À partir de ce moment-là, on crée des instituts, des organisations ou des entreprises de distraction qui participent de la corruption de la jeunesse. La jeunesse n'a plus l'occasion, le temps de se former et ça devient extrêmement compliqué. Mais il y a une sorte de laisser-aller parce qu'il y a quand même une complicité entre l'appareil gouvernemental. Et quand je dis l'appareil gouvernemental, je parle du point de vue structurel et ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, les institutions, par exemple le ministère en charge de la sécurité publique, doit interpeller. Et je suis très ravi d'entendre, par exemple, le ministre de l'administration du territoire dire que les kermesses doivent être, en fait, les enfants doivent avoir accès aux kermesses pendant les périodes des congés. C'est assez significatif. Ça témoigne de ce que on est en train de prendre conscience de ce qui est en train de faire. Mieux vaut tard que jamais. Quand vous comptez 100 bars, 200 lieux de débit de boissons et on ouvre ça à 8 heures pour fermer à 23 heures et regardez la catégorie sociale.
Puisqu'on parle déjà de la majorité de la population qui est jeune.
La catégorie sociale qui fréquente ces lieux-là, ces débits de boissons, ces églisettes, passez-moi l'expression, qui sont créées dans les salons au quartier. À un moment donné, ce sont tous ces aspects-là qui participent, si vous voulez, de la manipulation de la jeunesse. Parce que les jeunes n'ont plus le temps de se former et à cela s'ajoute
un autre facteur. Ils n'ont plus aussi le temps de travailler.
Oui,
madame Kissi.
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que Cresson vient de dire. Vous savez, je pense qu'il nous faut revenir aussi à cette question de savoir, en fait, pourquoi. Pourquoi, au fait, ces jeunes sont manipulés. La jeunesse représente, comme vous avez dit, 80% de la population, moins de 35 ans. Ça représente une masse fondamentale et vraiment une base sur laquelle n'importe quel politicien, même moi, si j'étais politicienne, au fait, je miserais. Dans certaines mesures.
Pourquoi tu dis c'est humain?
C'est ça, c'est une attraction. On présente une masse démographique assez importante. Mais aussi, il y a un intérêt politique fort qui est là. Et au fait, il faut, dans certaines mesures, le système éducatif centrafricain est tellement en déliquescence, au fait que c'est très facile, effectivement, de manipuler ces jeunes-là. Mais il nous faut aussi nous poser la question, dans le contexte aujourd'hui, qui manipule ces jeunes? Aujourd'hui, c'est effectivement, on peut parler des institutions dans une certaine mesure, mais il nous faut aussi parler aussi des jeunes qui manipulent d'autres jeunes. Et il nous faut faire la différence entre manipulation et mobilisation aussi, dans une certaine mesure. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, se pose la question, on voit que quand des jeunes essaient de se réunir, on voit que l'espace civique se réduit.
Et surtout les jeunes qui sont un peu éveillés par rapport aux autres.
Exactement. Quand ces jeunes essaient de s'exprimer, au fait, se pose aussi la question du fait qu'ils se mettent au fait en porte-à-faux. Avec une certaine dynamique au fait qu'il y a dans le pays. Et ça, au fait, il nous faut peser, mettre dans la balance au fait cette dynamique-là. Quelle est la différence entre manipulation et mobilisation? éveiller les consciences, c'est une chose, mais manipuler, c'est autre chose. C'est pour ça que je soulevais ces trois points-là au niveau, au fait, de l'influence. Au niveau, l'influence, c'est aussi très géré par l'argent, mais aussi la coercition et aussi les sentiments. Ou quand je dis ça revient au niveau des foyers, à ce niveau-là. Et donc, il nous faut prendre tout ça en compte pour comprendre aussi où se trouve aujourd'hui cette dynamique de mobilisation.
Mais est-ce que beaucoup de jeunes sont conscients, monsieur Nzewe, de certains actes qu'ils posent ou qu'ils ont été poussés à poser? Nous voulons, par exemple, ici, les manifestations organisées en faveur ou contre la réécriture de la nouvelle constitution, par exemple.
J'ai le pressentiment que la question est posée à dessein et à M. Nzé.
Pas à dessein. Vous savez, c'est que c'est pour tout le monde. Vous avez vos co-débatteurs vont aussi rebondir, prendre la parole.
Je dis tout simplement qu'il y a manipulation et manipulation. Lorsque nous sommes en face d'une situation politique posée et que les politiques en présence doivent éventuellement utiliser leurs entités de base pour mobiliser leur base pour poser des actes, c'est différent d'une manipulation de la jeunesse en tant que telle. Parce que lorsque les jeunes se trouvent dans des structures politiques ayant porté leur adhésion à une structure politique, ça veut dire tout simplement qu'ils ont accepté la discipline de l'entité à laquelle ils ont porté leur adhésion.
Et donc, pour dire qu'au sein de cette formation politique, même si vous êtes jeune, tout ce qu'on vous demande de faire, vous n'êtes pas manipulé. C'est ce que vous voulez dire?
Vous savez, lorsque vous portez votre adhésion à un parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti, auquel personne ne déroge. Ça, c'est une évidence. Même celui qui est à la tête du parti, lorsque la majorité, c'est-à-dire c'est le principe de la majorité qui prime, lorsqu'une décision est prise à la majorité absolue, à partir de ce moment, les autres doivent suivre tout simplement. C'est à partir de ce moment qu'on parlera éventuellement de l'influence.
Et de coercition.
De coercition, je suis d'accord avec vous, Madame Kessy. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique de ce que vous appelez ici la réécriture d'une nouvelle constitution. Moi, personnellement, j'ai porté mon adhésion à cette réécriture pour des raisons qui me sont propres et fondamentales. J'aurai le temps de revenir dessus si vous le souhaitiez.
Continuez.
Voilà. Donc, par exemple, lorsqu'on essaie d'expliquer à un jeune clairement qu'il y a la nécessité de la réécriture de la Constitution et que ce jeune porte son adhésion et qu'il y a ce qu'on appelle un appel à mobilisation, le jeune sera évidemment disposé à manifester de sa présence par rapport à cette mobilisation. Moi, par exemple, j'ai eu à échanger avec des jeunes.
Vous avez compris en échangeant avec ces jeunes, par exemple, est-ce qu'ils maîtrisent la quintessence de ce qu'ils sont tapés à faire, par exemple?
Vous savez, je suis toujours clair sur la question. Lorsque je discute avec un jeune en ce qui concerne la réécriture de la Constitution, voilà ce que je dis. Je porte mon adhésion par rapport à la réécriture de la Constitution parce que cette Constitution, elle est discriminatoire de la jeunesse. Vous savez, la classe politique centrafricaine, du moins l'élite, les leaders, ils sont bel et bien conscients que nous avons une Constitution bancale. Mais le véritable problème de l'élite, c'est qu'ils estiment que lorsqu'il y aura réforme constitutionnelle, on parlera du troisième mandat. Le véritable problème de l'élite centrafricaine, c'est le troisième mandat, mais ce n'est pas la Constitution. J'ai sorti sur ma page il y a de cela 4 jours la correspondance, c'est-à-dire la contribution du professeur Jean-François Akandikombe par rapport à la réécriture de la Constitution. Et dans sa conclusion, il a dit que cette Constitution ne peut qu'être réécrite dans la période où le président Touadéra est au pouvoir. C'est encore sur ma page. Mais lorsque on a pressenti, entre guillemets, ils ont eu le flair, c'est ce que je pourrais dire, que cette réécriture de la Constitution cacherait, je parle au conditionnel, un troisième mandat. Le professeur Jean-François Akandikombe allait à l'encontre de sa proposition et de sa conclusion qu'il a donnée il y a de cela un an en arrière. Donc, pour moi, je pense tout simplement que l'élite est bel et bien consciente du fait que la Constitution, elle est bancale et qu'il faudrait absolument aller vers la réécriture de cette Constitution.
Est-ce que vous avez aussi eu l'occasion, par exemple, de discuter avec un jeune en face pour lui dire que voilà, cette Constitution est bancale, mais est-ce que c'est ça aussi qui bloque le développement, l'éducation, etc., surtout la bonne gouvernance dans le pays?
Vous savez, les gens sont toujours prêts à mettre la charrue avant les bœufs. Il y a de cela un an en arrière, jour pour jour, Armando, tous les Centrafricains de l'Est à l'Ouest, même ceux de la diaspora, nous étions en train de crier haut et fort pour qu'il y ait ce qu'on appelle la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. pas plus tard qu'il y a de cela encore un an en arrière, en 2020, lorsqu'on était en train d'aller aux élections, c'était sous le crépitement des armes. Tout le monde était en train de tirer à bourrée rouge sur le système exécutif pour dire il n'y a pas la sécurité. Personne ne pensait au développement et au tout ça, etc. Et il ne peut pas y avoir développement sans sécurité. À partir de ce moment, le président de la République a mis le cap sur la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons la sécurité qui est en train de reprendre de plus belle sur toutes les dents du territoire national. Et il est temps de penser maintenant au développement. Et on ne peut pas
penser
au développement...
Et en passant par la Constitution, c'est ça ?
En passant éventuellement par la réforme constitutionnelle.
Oui, M. Paul-Christian Benenga, sur cette question de manipulation de la jeunesse, face à cette situation actuelle qui reste d'actualité, et surtout la réécriture de la nouvelle Constitution.
Écoutez, Daniel est en train de faire du dilatoire. Et je vais vous dire pourquoi il fait du dilatoire. Parce que l'impression qui se dégage de son discours est celle de dire que c'est la Constitution qui freine le développement de la République centrafricaine. Mais si je lui demande gentiment et amicalement de me citer un ou deux articles qui freinent le développement de la République centrafricaine dans cette Constitution, il ne sera pas en mesure de se prononcer là-dessus. Il dit, il parcourt les quartiers, il interroge la jeunesse, il les sensibilise sur la nécessité de réviser la Constitution. Et à partir de ce moment, les jeunes adhèrent à cette initiative-là. Je ne suis pas surpris que les jeunes puissent adhérer à une initiative pareille s'ils réussissent à les convaincre. Mais ce qu'il faut en amont comprendre, c'est que cette jeunesse-là a été préparée à accepter une telle démarche. Pourquoi ? Simplement parce que cette jeunesse a été mal formée. Celui qui est formé, il doit avoir sa propre opinion. Il a son opinion et il peut tamiser l'opinion de Daniel et de dire que je peux effectivement adhérer à cette initiative tout comme je peux la rejeter. Mais du moment où cette jeunesse-là décide de tout prendre parce que ça vient de Daniel qui veut convaincre cette jeunesse-là, on peut se poser la question sur la capacité de cette jeunesse-là. Et c'est pour ça que la responsabilité, elle est historique et partagée de ce que cette jeunesse-là représente aujourd'hui.
Et aussi le parcours de M. Daniel en tant qu'ancien président
non,
de l'ANECA,
Est-ce que ça ne peut pas
contribuer à l'influence ? C'est ce que je voulais en venir.
Bah, malgré tout son parcours, il ne peut pas me convaincre.
Non, pas vous.
Je donne un exemple.
Vous,
ah, voilà pourquoi il ne peut pas me convaincre. Il réussit à convaincre l'autre. C'est pourquoi je dis c'est parce que l'autre n'est pas préparé. C'est assez significatif. Et je ne le dis pas simplement parce qu'il défend ce côté-là. Il défend la révision de la Constitution. Il en est de même pour ceux qui sont contre cette révision de la Constitution. Si on réussit à faire des alliés au sein de la jeunesse, sans pour autant que cette dernière puisse avoir sa propre opinion, je vous dis c'est dangereux. L'idéal serait que cette jeune-là ait sa propre opinion. Et il peut changer son opinion en fonction de l'évolution des débats, en fonction de l'évolution de la situation, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais du moment où on réussit à le mobiliser aussi facilement, ça devient hyper compliqué. Et je finis en rappelant un fait. Lorsqu'on parle de la mobilisation ici, et Daniel me dit la discipline du parti, d'ailleurs, il clame haut et fort qu'il n'est pas dans un parti politique, ça on est d'accord sur ce point-là. Il dit qu'il est fasciste, il soutient le président de la République, mais il n'est pas...
Vous lisez tout le temps ma page, Monsieur Cressan.
Mais il n'est pas dans un parti politique. Donc, déjà, quand il parle de discipline de parti, il faut prendre ce qu'il dit avec beaucoup de pincettes. Ça, c'est dans de deux maintenant.
Peut-être il envisagera... créer son...
Non, monsieur Armando.
Je finis,
Daniel. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la mobilisation et on dit que les jeunes ont accepté d'être mobilisés parce qu'ils appartiennent à des partis politiques ou parce qu'on a sorti de l'argent, je vais vous dire attention. Les jeunes ne sont pas aussi, sont aussi des acteurs. Ils peuvent vous donner l'impression qu'ils sont avec vous sans pour autant être avec vous. Ça reste aussi des acteurs.
C'est des acteurs.
Ça reste des acteurs.
Et des acteurs principaux.
Écoutez, lorsqu'on vous tend 2000 francs, voilà le monsieur qui travaille dans une entreprise de pneumatique qui n'arrive pas à mobiliser 2000 francs ou 3000 francs à la fin de la journée. Vous venez lui tendre 2000 francs pour une mobilisation d'une heure ou de 45 minutes. Il peut dire ensemble, ok, ça c'est un acteur. Il joue le jeu, il vous donne l'impression qu'il est avec vous, mais en réalité il n'est pas avec vous. Et ça aussi il faut compter. Donc les jeunes ne sont pas totalement ignorants. Les jeunes ne sont pas totalement manipulés, mais il faut tenir il faut prendre en compte cet aspect qui est celui de dire que ça reste des acteurs.
Qu'est-ce que vous voulez réagir tout à l'heure ?
Oui, je voulais réagir sur le point que Christian a souligné et ce que Daniel a souligné aussi. Je pense qu'il est important de se poser la question sur un point, c'est combien de jeunes ont lu cette constitution finalement ? Combien de jeunes comprennent ? Ça rejoint le point de Christian. Combien de jeunes ont lu et compris au fait cette constitution ? Ça, c'est un travail qu'on fait, par exemple, au niveau de OU, c'est de demander à nos jeunes avec qui on travaille, est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous pensez au fait de cette constitution? Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas, au fait, le débat, la dynamique mais aujourd'hui.
Malgré qu'ils ont pris part.
Ils ont pris part, ils ont fait les marches. Et ça rejoint parfaitement ce que Clesson a dit, dans une certaine mesure. C'est, on y va, mais Igonayetalani, mais Abayapé. C'est un peu ça, au fait. On va aller faire la marche, on va prendre l'argent, mais après, certains, au fait, se défilent. Et certains, comme dit, le mouvement de groupe, ça c'est très important. En République centrafricaine, on a ça. C'est qu'il y a une dynamique de groupe. Quand il y a un mouvement quelque part, les gens s'agglutissent. Vous voyez, il y a un mouvement, et les jeunes rejoignent, même certains n'ont même pas reçu d'argent. Mais parce qu'ils ont vu les autres avancer, ils sont allés avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a à aller voir. Et il y a une chose aussi, le mensonge. Le mensonge, quand on mobilise, au fait, ces jeunes-là, le contenu des messages qui sont passés, beaucoup, au fait, de ces contenus-là, vu qu'ils ne comprennent pas, beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas, parce que quand, même moi, quand je prends le texte de la Constitution, je dois m'y prendre à plusieurs fois et aller chercher pour mieux comprendre les contenus, la manière dont les phrases sont écrites et autres. Donc imaginez une jeunesse, au fait, qui ne comprend pas tout ça, au fait, généralement, si excusez-moi, Daniel, si je dis Monsieur Nzewe vient et leur dit, c'est ce qui a écrit, c'est ce que je disais depuis le début, au fait. Si on leur dit que c'est ce qui a écrit et c'est ça qui doit changer, ils vont le croire. Parce que non seulement Monsieur Nzewe vient avec son influence par rapport à son poste, et donc, comme je l'ai dit, ces jeunes-là respectent ce poste-là. Donc ils vont dire, écoute, Azola, ça tenait. Donc on va respecter ce qu'il a dit. Donc ce qu'il dit est vrai. Il donne de la crédibilité à ce que Monsieur Nzewe va dire.
Et donc toujours, il y a manipulation.
Il y a de la manipulation. Mais c'est ce que je souligne, c'est que quand on parle de manipulation, il nous faut distinguer les différents niveaux de manipulation. Et un point que j'aimerais souligner aussi, c'est que cette manipulation se passe en ligne. Attention.
On y revient. Si vous en voulez bien. Oui. On écoute, Monsieur Daniel, vous voulez répondre. Je vous donne une minute pour qu'on gagne du temps.
Il y a une précision. Je tiens à dire à Monsieur Cresson que j'ai été secrétaire général d'un parti politique avant de démissionner.
Le
Parti National
de Monsieur Gonda.
Merci Monsieur Cresson. Donc j'ai démissionné de ce parti. Ça veut dire que je suis en mesure de parler de ce qu'on appelle la discipline du parti. Je ne dis pas les choses à la légère. Deuxièmement, je voudrais dire tout simplement que la manipulation dont il est question ici n'est pas une manipulation en tant que telle, mais c'est ce qu'on appelle une force de mobilisation.
Vous dites que ce n'est pas une manipulation en tant que telle.
Donc
ça veut dire qu'il y a une manipulation, mais ce n'est pas la manipulation.
Au fait, cette mobilisation, cette force de mobilisation peut être interprétée différemment. Kessy va interpréter en disant que c'est une manipulation. Moi, je dirais tout simplement que c'est une mobilisation. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans deux dynamiques très opposées en ce qui concerne la définition de la manipulation.
Quelques secondes, oui.
Je vous en prie, c'est important de revenir dessus. Lorsque on va vers un jeune pour le sensibiliser, dans un premier temps, il faut se dire que les êtres humains restent des êtres humains. Ils ont toujours une approche critique, quel que soit son niveau. Lorsque vous venez poser un problème, ça ne veut pas dire tout simplement que la personne va porter son adhésion de manière mécanique. Mais la personne va avoir ce qu'on appelle une approche avant de pouvoir porter son adhésion. Et lorsque vous regardez les jeunes être mobilisés au tout ça, etc., ce ne sont pas seulement des jeunes désœuvrés, ce ne sont pas seulement des jeunes mal formés. Il y a des jeunes qui sont suffisamment formés et au tout ça qui portent leur adhésion.
Voilà, les minutes sont terminées. Oui, madame Kessy.
J'aimerais juste souligner un point. Vous savez, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre mobilisation et manipulation. C'est deux choses complètement différentes. La mobilisation se base aussi sur une dynamique de conscientisation. Qui est très différente de la manipulation. La manipulation, c'est une force de coercition. C'est qu'on pousse la personne, au fait, à adhérer à une chose.
Malgré
son gré. Ou bien, comme on l'a souligné, c'est que s'il ne comprend pas, on le pousse, au fait, à adhérer à ce qu'on veut. Alors que quand on est dans de la mobilisation, généralement, on a tendance, au fait, à venir avec une dynamique où on essaie de conscientiser et de permettre à la personne de pouvoir avoir cet esprit critique-là. Ce qui est deux choses complètement différentes.
Faisons un tour sur les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà souligné, Madame Kessy, où le véritable visage des jeunes centrafricains est dévoilé, insultes contre certaines personnalités, messages haineux, incitation à la violence. Est-ce que cette nouvelle forme de comportement adoptée par les jeunes vous surprend?
Écoutez, déjà, c'est un sujet très important et très intéressant. Parce que je pense que la dynamique, au fait, aujourd'hui, des discours de haine ou des attaques, au fait, sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est que quelquefois, on a, et j'en ai été victime, de toute façon, de voir, au fait, des jeunes qui attaquent, qui insultent. Mais il y a beaucoup de faux profils aussi. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est de dire aussi que Ces jeunes-là, comme j'ai dit, on est dans une dynamique d'influence. C'est que si ils estiment, je donne un exemple, par exemple, s'ils estiment qu'un liveur qu'ils aiment bien a dit quelque chose, bah, ils vont suivre la dynamique. Ils vont pas
et
chercher
donc,
à savoir.
Et donc, cette manipulation va jusqu'au sur les réseaux sociaux.
Ça va jusqu'à sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes que j'ai des groupes de jeunes que je connais qui sont actifs sur le terrain et qui sont actifs sur les réseaux sociaux aussi. Et c'est quelque chose qui est assez inédit en République centrafricaine, parce que c'est un pays où on nous dit qu'au fait les jeunes n'ont pas vraiment accès à Internet. Hein. Mais Dieu seul sait que la dynamique aujourd'hui, l'influence la capacité des jeunes à influencer la dynamique sur les réseaux sociaux, a un impact aussi dans la réalité au fait et au quotidien.
Monsieur Pokassa Beninga, sur cette question. Insultes, etc., manipulation sur les réseaux sociaux, c'est notre impact.
Écoutez, les réseaux sociaux aujourd'hui apparaissent à la fois comme facteur de manipulation, mais également cadre d'expression de cette manipulation-là. Vous savez, Kessia a évoqué la question des comptes avatars, mais ces comptes avatars sont créés à dessein. Et il y a certains hommes politiques de tous bords qui passent par ces comptes avatars pour régler des comptes. Sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui sont dans les organisations de la société civile, passent par ces comptes avatars pour régler des comptes. Aujourd'hui, vous savez, il y a un métier. Les réseaux sociaux ont donné du métier aux gens. Il y a ceux qui se font appeler des liveurs.
Et même des gens.
Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent des activités sur les réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça a une influence, je suis entièrement d'habit. Mais toujours, pourquoi est-ce que cela a une influence ? C'est parce que l'acteur qui consomme ses produits sur les réseaux sociaux doit disposer d'une capacité de critique. Lorsqu'il n'a pas une forte capacité de critique, à partir de ce moment, il prend pour argent comptant ce qui est sur les réseaux sociaux. Elle a parlé de l'influence, je suis entièrement d'avis. Un liveur qui a une réputation et qui est respecté. Quand il dit quelque chose, quand tu n'as pas une capacité de discernement, tu prends ce qu'il dit pour argent comptant.
Oui, M. Nzéwe.
Lorsqu'il s'agit de M. Nzéwe, c'est toujours une précision en termes de temps, M. Armando.
Oui,
ce n'est pas juste ça. Non.
Monsieur
Beninga a plus parlé que tout le monde.
Regardez en face de vous, il y a un chrono.
Je suis en train de vous dire tout simplement.
Il fait du dilatoire, il n'a rien à dire.
J'ai beaucoup de choses à dire, seulement il monopolise. Je voudrais dire tout simplement, dans tous les cas, j'ai toujours été victime. N'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme diffamation sur les réseaux sociaux et tout ça, etc. Je pense que Kessi même était victime récemment. Je fais partie de ceux qui l'ont défendu publiquement et sur les réseaux sociaux lorsqu'il était intervenu.
Soutenu.
Défendu.
Non, soutenu.
Lorsqu'elle était intervenue au niveau de la tribune des Nations Unies. Vous savez, les gens utilisent les réseaux sociaux pour régler des comptes. Mais il est temps pour nous de nous rendre à l'évidence que ce n'est pas un cadre de résolution des problèmes. Deuxièmement, je tiens à dire, Armando, quelque chose de très significatif sur lequel je suis passé très rapidement tout à l'heure. Cette constitution du 30 mars 2016 dont nous avons parlé, c'est la constitution la plus médiatisée. Parce que lorsque je rentre même à la maison, ma bonne qui est à la cuisine, des fois m'appelle pour me dire « Patron, car article nu soit intense, mais,
ah bon? Nous...
mais je vous assure... » La radio, les médias en ont tellement parlé. C'est l'unique constitution de la République centrafricaine dont les médias en ont tellement parlé.
Si ça vous va, on aura une occasion pour parler uniquement de cette question.
On ne peut pas le laisser dire de telles choses et ne pas réagir.
Qu'est-ce
que vous voulez rebondir
sur la question des réseaux sociaux.
Précisez à Kessi que c'est une minute.
Allez, je vous en prie. Non, je chronomètre.
J'aimerais souligner un point sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a une dynamique qui est là aussi qu'il nous faut prendre en compte. C'est que aujourd'hui, l'influence que les jeunes centrafricains reçoivent, on va dire, dans une certaine mesure, ne vient pas seulement du pays, ne vient pas seulement des politiques, mais il y a une dynamique aussi au niveau continental qu'il nous faut prendre en compte. On est aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je vois les jeunes centrafricains qui adhèrent au fait à cette dynamique de néo-panafricanisme, dans une certaine mesure, et qui nourrit au fait au quotidien, au fait, les publications au fait sur les réseaux sociaux. Et sans comprendre, sans lire, sans vérifier, au fait aujourd'hui, c'est soit tu es pro, soit tu es contre, au fait, soit tu es pro-occidental, soit tu es pro-panafricain. Et donc, au fait, ça rentre dans une dynamique qui nourrit aussi aujourd'hui la dynamique des jeunes en République centrafricaine. Il nous faut prendre en compte ça. Et on le voit, ça se traduit, comme j'ai dit, on a une dynamique en ligne qui se traduit aussi sur le terrain. Quand on voit, au fait, dans les manifestations, les panneaux et autres qui circulent, on voit bien que les jeunes...
45 secondes au lieu de 1 minute, comme M. Zewé. Vous voulez répondre par rapport à la question de la constitution question tout à l'heure.
Oui, vous voyez, ici, Zéo se sert de ce plateau pour pouvoir passer des messages relatifs à la révision de la Constitution. Il se croit malin, mais comme je dis, il fait du dilatoire. Le débat ne concerne pas la Constitution et il nous ramène toujours sur la Constitution. Lorsqu'il dit que la Constitution en cours est la Constitution la plus médiatisée, est-ce parce qu'elle est la plus médiatisée qu'elle est comprise? La question reste posée. Ce n'est pas les journalistes font un travail sur le débat relatif à la révision ou non de la Constitution. Mais ça ne veut pas dire que c'est un débat de fond. Ce n'est pas parce que ça a été médiatisé que ça veut dire que la Constitution a été comprise. Donc, ne nous trompons pas de débat. Si Nzéoué veut bien, on peut organiser un débat même à deux sur les plateaux.
Voilà, le temps nous fait de faux prénoms. À présent, les réactions orales écrites de nos auditeurs et internautes sur ce sujet.
Bonjour Armando Yanguindi, bonjour Adon de Kilouker, bonjour tous les invités de l'émission Patara. Je suis Syriac Mayele, centrafricain. C'est avec beaucoup de regrets et d'amertume que je constate de manière personnelle. Bon nombre de la jeunesse centrafricaine font la politique en RCA sur deux aspects, selon ma conception. Le premier aspect, c'est d'abord la recherche des postes car cette jeunesse est mal orientée. Et le deuxième aspect, c'est d'ordre familial. Juste parce que le leader politique est un membre émanant de ma famille, je dois objectivement ou obligatoirement intégrer son parti politique. Alors sur ces deux angles, cette jeunesse est désorientée et elle n'a aucune vision politique. C'est pour cette raison que toutes les décisions de la vie politique que les leaders politiques de certains partis peuvent prendre n'importe quelle décision. Et souvent, quand ces leaders politiques font des sorties sur des ondes radio-téléphoniques, réseaux sociaux ou autres, ces jeunes ne peuvent que soutenir les idéaux, même si ces idées ne sont pas bonnes pour la vie politique de leur pays. Alors j'interpelle la jeunesse centrafricaine de faire une prise de conscience objective avant de prendre une décision pour s'intégrer dans un quelconque parti politique. Je félicite autant Radio Ndekeluka pour l'émission Patara et nous voudrions que cette émission soit pérenne. Merci.
Bonjour tout le monde, bonjour Radio Ndekeluka, bonjour très chers amis auditeurs et auditrices de l'émission Patara. Je m'appelle Marius Symboli. Pour moi, la notion de la jeunesse est une tranche de vie qui se détermine par l'âge souvent fixé entre 10 à 35 ans. La jeunesse centrafricaine est estimée à 70% de sa population. Maintenant, si on doit parler de la jeunesse centrafricaine dans la politique, proprement dite, qui est une étude stratégique de l'analyse des systèmes politiques, des régimes, du droit constitutionnel, de la sociologie politique, des relations internationales, etc. Je crois qu'il y a vraiment du boulot à faire parce que sur les 70% de la population jeune, je pense que moins de la moitié peuvent être capables de dire quelque chose, pouvoir dire quelque chose de concret, de comprendre l'avancée des événements. La jeunesse devrait être plus impliquée dans la politique puisque les décisions que ces politiciens ou bien le gouvernement prend, ce sont des décisions qui touchent beaucoup plus à la population parce qu'on parle du futur. Ce sont des décisions pour mettre en place le futur de ce pays. Et le futur de ce pays, c'est la jeunesse. On n'a pas assez de place. Pire, on n'a pas de voix ni une personne vraiment pour siéger dans des commissions, des discussions, etc. pour parler de cette jeunesse. Hein, pire, je crois même le plus jeune député de la nation a plus de 30 ans. Je crois dans les 33 en allant, voire même 35 ans si je ne me trompe pas. Prenons juste l'exemple de la CNJ qui est déchirée pour des raisons que tout le monde connaît déjà. Donc du coup maintenant, si on doit parler de la jeunesse, de l'implication de la jeunesse, il faudrait parler d'abord de la prise de conscience de cette jeunesse, parce que la jeunesse centrafricaine ne se comprend pas. De se faire manipuler juste pour avoir un petit truc pour pouvoir vivre avec. Donc pour moi, la jeunesse centrafricaine doit d'abord se dire qu'il est capable de vivre les problèmes, de vivre cette difficulté, mais pour un avenir meilleur.
Bonjour Armando, et bonjour aux invités sur le plateau. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Patara. Votre compatriote Giovanni Damondi. Le thème Patara de cette semaine a retenu mon attention. Je m'interroge à quand notre société arrivera-t-elle à se déterminer, non par un régime, non par l'argent, puis encore par les combats d'hommes, mais plutôt par les valeurs républicaines de démocratie. La surdité innée du gouvernement, son silence patenté est tout simplement complice de tout désordre orchestré par ces maestros des organisations dites de la société civile, très 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 proches du chef de l'État, qui désormais d'ailleurs, comme toujours, ont carte verte et donc peuvent se permettre le luxe d'inciter à la haine, de s'en prendre aux institutions de la République, d'injurer publiquement les hautes personnalités et voire les préméditer sans que le parquet s'en saisisse. Faut-il pour cela que la justice soit-elle encore indépendante?
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs de Pataram. Je voudrais te dire seulement que c'est la politique qui est en train de manipuler la jeunesse et toutes les institutions en place ou les centres d'écoute ou là où pouvaient sortir toutes les suggestions de la jeunesse. Le gouvernement en place est en train de faire saboter et l'État ne prend pas ses responsabilités sur ce lieu. Premièrement, je te parle en tant que ressortissant de l'université de Bangui. L'ANECA a été dissous. Le gouvernement n'a pas soucié un instant pour rétablir ça, malgré les recommandations fortes et phares de dialogue national à Bangui. Et secondo, tu vois, la jeunesse a encore une fois de plus marginalisée par le ministre de la Jeunesse et Sport, cautionné par le gouvernement centrafricain pour dissoudre le Conseil national de la jeunesse en vue de mettre les gens pour satisfaire le pouvoir. Et ça me déplaît en tant que jeune.
C'est Cyril Nézoufé. Bonjour Armando. La jeunesse centrafricaine n'a quasiment pas une place dans la politique actuelle, puisque nos politiciens leur cèdent pas une opportunité à cette jeunesse-là. Nous avons plusieurs partis politiques, ce qui fait que la jeunesse est toujours divisée.
Voilà, merci pour vos réactions écrites et orales. Nous avons tout pris en compte d'ici et d'ailleurs. Les faits sont patents, mais d'après vous, Madame Kessy, que faire aujourd'hui pour barrer la route à ce fléau et surtout pour ouvrir les yeux des jeunes sur cette pratique qui n'a que trop duré?
Je pense que l'esprit critique est fondamental. Au fait, il faut permettre, accompagner les jeunes pour leur permettre de penser par eux-mêmes, dans une certaine mesure. Et pour ça, il faut leur donner l'accès à l'information. On parlait tout à l'heure de la Constitution, on ne va pas revenir dessus, mais c'est un exemple sur cette Constitution, c'est comme j'ai dit, combien de jeunes ont lu cette Constitution, ont compris cette Constitution. Et c'est là où se trouve l'importance au fait des organisations de jeunes, de pouvoir créer des cadres pour permettre à ces jeunes-là de comprendre, d'échanger et de débattre au fait sur l'actualité, les dynamiques dans le pays. Mais de plus en plus, on voit ces jeunes-là, on voit ces dynamiques-là se développer, mais attention, l'espace civique se restreint en République centrafricaine dans une certaine mesure. Et je pense qu'il est important de pouvoir au fait pousser ces jeunes-là aussi à comprendre l'importance d'occuper cet espace civique-là, en étant présent autant en tant qu'association, mais aussi en écoutant la radio, mais en créant, en étant aussi dynamique sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça leur permet de pouvoir occuper l'espace, poser des questions, mais aussi échanger pour pouvoir se faire leur propre opinion. Et je pense, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est qu'il est important... la responsabilité, autant je la donne aux organisations de jeunes, mais je la donne aussi aux institutions. Je pense qu'il est important pour les institutions telles que le ministère de la Jeunesse de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, les dynamiques qu'il y a autour d'elles.
Paul Kassambinga, sur cette question.
Alors moi je pense qu'il faut former. Former les jeunes. Et quand je parle de formation, il faut que les jeunes soient éduqués. Il faut renforcer et revoir le système éducatif centrafricain. Il faut donner la capacité à la jeunesse de penser, d'interroger et de s'interroger. Ça va de soi. Et au-delà de cette formation, il faut également tenir compte de ce qui vaut dans une société. Je vais dire des valeurs. On est aujourd'hui dans une société où le mal est banalisé, où le normal est devenu anormal, et l'anormal est devenu le normal. Le bien est devenu ce qui est mauvais, et ce qui est mauvais est devenu ce qui est bien. Et il faut nécessairement faire cela. Et peut-être le dernier aspect, c'est qu'il faut avoir une vision pour ce pays. Il faut avoir une vision pour ce pays. Non pas uniquement pour la jeunesse, mais il faut un leadership visionnaire qui tire vers le haut toutes les couches sociales.
Monsieur Daniel Zewi.
Moi, je pense tout simplement qu'il est temps de penser à l'insertion de la jeunesse, créer un cadre pour permettre à la jeunesse éventuellement d'être insérée, avoir éventuellement la possibilité d'accès à la formation à différents niveaux et à l'information. Je pense que ce sont les trois piliers les plus capitaux.
C'est tout ?
C'est tout.
Merci. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Les discussions démocratiques consacrées à la jeunesse et la manipulation politique en République centrafricaine. Nous avons fait le tour de l'horizon pour comprendre avec nos débatteurs sur les causes endogènes et exogènes de cette pratique qui prend de l'ampleur dans le pays. Merci bien à nos invités, Madame Kissi Ekomo. Merci à vous d'être venue.
Merci beaucoup.
Directrice de l'ONG Ourou, Daniel Zewe, chargée de mission au ministère de la Jeunesse. Merci.
Merci, Armando.
Merci aussi à vous, Paul Kessambinga.
Merci.
Porte-parole du groupe de travail de la société civile, GTSC. Merci beaucoup. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et attention, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.